d'après vous. Et pour nous. Pour nous. Parce que je ne vois pas à qui cela pourrait s'adresser d'autre. D'autres mots encore désignant le péché signifient la faute, la révolte, la rébellion, la transgression. Oui, rien que sur ce mot-là, il y en a des concepts, il y en a des approches et des nuances. C'est lourd, hein, c'est pas un mot simple. Alors, à chaque fois que nous sommes confrontés à la tentation, puisque qui dit péché dit au préalable tentation. À chaque fois que nous sommes confrontés à la tentation, c'est l'épisode du Jardin d'Éden qui se rejoue à nouveau avec ces mêmes questions que je vais vous proposer. Quand sera-t-il cette fois-ci de toi, de vous, de moi? Nous retrouverons-nous à nouveau expulsés et battus, ou serons-nous victorieux de nous-mêmes et de Satan? Alors, il y a des gens qui vont m'arrêter tout de suite en me disant, David, ce que tu dis, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas théologiquement vrai, parce que lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es passé de la vie à la mort en Jésus-Christ, tu ne peux pas te retrouver dans la situation du jardin d'Éden et tu ne peux pas te retrouver expulsé. Je suis d'accord, c'est une image. C'est à des fins pédagogiques que j'utilise cette formulation, cette approche, parce que je sais très bien que lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on ne se retrouve pas à nouveau jeté aux enfers du péché et la déroute qui l'accompagne. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Mais je suis en train d'aider notre compréhension avec une image. On est d'accord ? N'allez pas dire au dehors ni au dedans que je viens déformer la réalité de l'enseignement. Pas du tout. Je préfère prendre des précautions. Quelques autres questions me viennent par rapport aux enjeux qui se jouent avec le péché. Nous saisirons-nous de la victoire pour laquelle Dieu nous a créés ? Où nous perdrons-nous à nouveau dans notre désir de puissance? Le désir de puissance. Chaque fois que vous êtes tenté, chaque fois que la tentation fait toc-toc à votre porte, se rejoue à nouveau toutes ces questions-là. Il y a toujours cela derrière. Comment allons-nous y répondre ? Revêtrons-nous notre statut de créature faite à l'image de Dieu, du Dieu saint, lorsque la tentation viendra? Ou vendrons-nous notre héritage éternel pour un misérable plat de lentilles? C'est juste ça la question. Est-ce que nous allons vendre notre héritage pour un misérable plat de lentilles? Quand je dis misérable plat de lentilles, mettez-y ce que vous voulez. Mettez-y des désirs les plus profanes, ce que vous voulez. On ne va pas faire un dessin. Ajouterons-nous nos noms au livre de vie des fils et des filles, désormais mortes et morts, eux-mêmes avec Jésus-Christ à la croix et vivant dans ses résurrections, où nous priverons-nous, nous-mêmes, de la gloire que Dieu le Père a souhaité de tout temps partager avec nous. Voyez, le problème, c'est que la question du péché pointe du doigt notre responsabilité. Ça ne sert à rien d'aller chercher beaucoup plus loin, c'est de nous qu'il s'agit, c'est à nous que l'on s'adresse avec ces questions, c'est nous qui sommes concernés. Voyez, donc il y a ces enjeux-là derrière la question du péché. Est-ce qu'on veut rejouer éternellement la scène où l'on périt, où l'on faillit, où l'on trébuche, ou au contraire, veut-on saisir l'occasion et nous réjouir que la tentation vienne pour dire « Attends, tu vas voir maintenant, tu vas voir comment je vais traiter la question, tu vas voir comment je vais transformer l'essai. » Tout dépend comment on accueille la tentation, hein. Pensez à échapper à la tentation? Jamais de la vie. Ce n'est pas biblique. Alors, Voyez, on commence doucement. Pour résumer, ce qui se joue avec le péché, c'est notre relation à Dieu qui est source de la vie véritable. La relation à Dieu qui est source de la vie véritable. C'est cela qui se joue avec le péché. Nous poursuivons par quelques rappels encore, parce que c'est bien, vous savez, de contextualiser, de situer les choses, parce que c'est bien, ça nous rassure. Les rituels sont rassurants. Alors, quelle est l'origine historique du péché et quels sont les grands ressorts? On va résumer. Quels sont les grands ressorts du péché? Vous les connaissez tous, ces ressorts-là, mais je vais vous les rappeler. Le péché est toujours associé au mensonge, à l'orgueil et à la désobéissance. Voilà. Il apparaît pour la première fois dans le jardin d'Éden avec les deux premiers hommes. Ça, c'est l'histoire. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, Genèse 3, 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez que là, il y a une mise en doute de la parole de Dieu. Dieu avait dit, si vous en mangez, si tu en manges, tu mourras. Si vous en mangez, vous mourrez. Donc là, le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc vous voyez qu'un des ressorts du péché, c'est le mensonge. Le serpent ment. Ou en tout cas, il induit le mensonge. Il suppose, il laisse imaginer que Dieu aurait menti, mais c'est lui qui ment. Ça commence comme ça. Donc le premier ressort du péché, c'est le mensonge. Ça commence toujours comme ça. On déforme la réalité. On déforme la vérité. La vérité, parce que la réalité est trompeuse. La vérité. Je peux voir une chose, mais ça ne peut pas être. Parfois, ce que je vois n'est pas la vérité, mais c'est une apparence. Le deuxième ressort du péché, c'est le désir de puissance. Oh, j'aime beaucoup ce mot parce que malheureusement, c'est ce qui nous anime, le désir de puissance. Et ça, c'est une vraie pierre d'achoppement. Le désir de puissance, Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que, c'est le serpent qui répond à Ève, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, découvrir des choses merveilleuses, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Rendez compte la promesse, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah, ça fait du bien d'entendre ça, n'est-ce pas? Comme des dieux. Waouh! Le désir de puissance, deuxième ingrédient du péché. Ben le troisième, je n'épiloguerai pas plus, ben c'est la désobéissance. Hop, on tourne la page, on passe à autre chose. C'est un premier appel, on continue. J'aimerais quand même dire que Dieu n'est pas à l'origine du péché, ni de la tentation, ni de la chute de l'homme. Dieu n'est pas, je l'ai déjà dit dans des prédications précédentes, je le redis, Dieu n'est pas à l'origine du péché. Il n'est pas à l'origine de la tentation, il n'est pas à l'origine de la chute. C'est l'homme dans sa petite histoire avec Satan. Dieu n'y est pour rien. Dans Jacques 1,13, nous lisons dans cette épître de Jacques, dans l'épreuve de la tentation, écoutez bien, que personne ne dise, j'aime bien cette formulation parce qu'elle est assez autoritaire. Pourquoi elle est autoritaire? Parce qu'il faut être clair là-dessus. Que personne ne dise, ou si vous voulez, ne vous avisez pas de dire, ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, dit Jacques, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Je préfère le relire. Hein. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même il ne tente personne. Que personne n'aille dire que Dieu l'a tenté. Ou que là, sa tentation vient de Dieu. C'est une hérésie. C'est un blasphème. C'est grave de dire ça. C'est grave de le penser. Si vous le faites, demandez pardon à Dieu. C'est tout. Ça, on ne peut pas marcher avec Dieu avec de telles pensées. Donc, c'est important d'être clair là-dessus, hein, quand on parle du péché. Je termine avec ce petit rappel-là sur un verset du Nouveau Testament qui a d'ailleurs été longtemps une occasion de tristesse pour moi, mais pas que pour moi, pour vous, pour les chrétiens de plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui. Un sujet de confusion, de chute. Je vous lis ce verset. Pourtant, ce verset est censé être un cadeau de la part de Jésus, hein, pour nous. Regardez bien. Matthieu 6, 13. Ô Seigneur, là c'est moi qui dis, ne nous induis pas en tentation. Une autre version, ne nous expose pas à la tentation. Oh, ne nous soumets pas à la tentation. Wow. Disons, j'ai souffert longtemps de cela. Vraiment. Quand je me suis converti, j'avais 17 ans. Ça me faisait souffrir, hein, vraiment. Et les larmes aux yeux, je pense. Une autre traduction qui vient améliorer un peu les choses, parce que le problème, c'est la traduction de la Bible. Parfois, des traductions ne sont pas suffisamment conformes au texte d'origine et à la pensée de Dieu. Donc, regardez maintenant comment est-ce qu'on a un peu amélioré les choses. Et ne permet pas que nous soyons tentés. Ça aussi, c'est une hérésie. Ce n'est pas une amélioration, ça, je me suis trompé. Ne permet pas que nous soyons tentés, c'est faux. Dieu permet que nous soyons tentés. Dieu ne met pas d'obstacle à notre tentation. Il ne met pas des barrières, des herses, de façon à ce que, quand la tentation arrive, elle soit bloquée. C'est pas vrai, ça, c'est pas biblique. La tentation vient. Dans le jardin d'Éden, le serpent est venu. Est-ce que Dieu est venu faire obstacle? C'est faux, ça. Donc, encore une traduction qui ne me correspond pas, qui ne convient pas pour moi. J'en prends la responsabilité en ce qui me concerne. Maintenant, des traductions qui semblent correctes et qui honorent davantage Dieu. Garde-nous de céder à la tentation. Garde-nous. C'est-à-dire, aide-nous. Et surtout, délivre-nous du mal. Une autre version. Et ne nous abandonnez pas. Là, on parle à la deuxième personne, n'est-ce pas, au Seigneur. Et ne nous abandonnez point à la tentation. Là, l'idée, c'est qu'il y ait dans la tentation un secours. Voyez donc, il n'est pas étonnant que les relations entre les chrétiens, les enfants de Dieu, aient été depuis des générations conflictuelles avec Dieu. Quand il y a des versets comme ça qui blessent le cœur, déjà qu'on est suffisamment blessé, on a gros sur la patate, hein, vivre, c'est pas évident. Hein. Mais si en plus, il y a des versets comme ça qui nous déchirent le cœur, alors là, ça fait mal, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Parce que d'un côté ici, il y a ce qu'on appelle un irréconciliable. C'est irréconciliable. Comment imaginer un Dieu d'un côté tentant l'homme, et la femme, hein, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, et de l'autre côté, être ce même Dieu vers lequel devraient aller nos prières pour être délivré de la tentation. Donc, il faut le faire. Ça relève de la maladie psychiatrique, là. C'est un conflit. Il y a un conflit. Un conflit neuronal. Ça ne peut pas passer. Donc, ça veut dire que nous devons être humbles quand nous lisons les Écritures. Nous ne pouvons pas situer, nous bloquer sur un verset et ignorer le reste. Ça veut dire qu'il faut être prudent, sage et rendre gloire à Dieu en cherchant à lui rendre gloire, en disant « Seigneur, je comprends bien que là, il y a un problème, mais par ailleurs, ta parole nous montre que tu n'es pas impliqué dans le péché, je le sais. Je le sais. Tu ne m'induis pas en tentation, tu ne m'y soumets pas, parce que le mot est fort, hein. Dis donc les traducteurs, bonjour. Excusez-moi, ça c'est péché pour moi. Ça c'est péché. On fait du mal aux gens en écrivant des choses comme ça. Donc je termine cette partie pour dire qu'il ne faut pas confondre la mise en tentation qui vient du diable et qui vient de nous-mêmes avec une mise à l'épreuve de Dieu. Mais ici, ce n'est pas le sujet. Nous n'allons pas parler de la mise à l'épreuve. On pourrait travailler sur le thème de l'épreuve. On peut aller être dans l'épreuve. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Moi, j'ai un fils, j'ai une fille. Des fois, je les mets à l'épreuve. Et ça rigole pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent apprendre des choses. Une mise à l'épreuve d'un papa, d'une maman, ça existe. Et c'est sérieux. Mais c'est bienveillant. Ce n'est pas fait de pièges malsains et machiavéliques. Ce n'est pas ça, la mise à l'épreuve. Donc, ça n'a rien à voir avec... La mise à l'épreuve n'a rien à voir avec la tentation qui, elle, est diabolique et humaine. Donc, nous avons vu, je rappelle, parce que c'est parce qu'on se perd, nous avons vu la définition du péché. Nous avons vu ce qui se jouait derrière à chaque fois le péché. Vous savez, on recommence la même histoire, les mêmes enjeux de « vas-tu être vainqueur ?» ou « vas-tu être vaincu ?» Voilà, on a vu ça. Nous avons vu également les origines du péché, l'origine historique avec Adam et Ève, etc. Et les trois ressorts du péché, le mensonge, donc le désir de puissance et la désobéissance. Et nous avons fait quelques commentaires pour montrer que Dieu n'y était pour rien dans le péché et qu'il y avait des versets qui pouvaient nous induire en erreur et fragiliser notre foi. D'accord ? Eh bien maintenant, nous allons passer à une autre idée. Pour continuer notre développement là sur le péché, nous allons voir qu'il existe trois agents du péché. Des agents qui font la promotion du péché. Vous savez, des promoteurs, il y a des promoteurs immobiliers. J'aime bien ce mot. Vous savez, promoteur. Promoteur, c'est fort, vous voyez. Ça peut être très positif aussi. Hein. Très négatif, tout dépend ce qu'on va promouvoir. Donc il existe trois agents, bon, vous les connaissez les agents, je n'invente rien là, trois agents qui sont les promoteurs du péché. Alors, dans l'ordre décroissant d'importance, commençons par le premier agent, un grand promoteur du péché. Eh bien, je ne vous apprends rien, la Bible dit qu'il y a notre chair. La chair. La chair, c'est vous. Mais c'est moi. Oui, c'est nous, quoi. C'est simple, hein. La chair. La chair, le grand promoteur du péché. Alors, quand on dit la chair, on pourrait dire le cœur humain, l'homme, la femme, l'être humain, quoi. Hein, soyons simples. Voilà, la chair. Le vieil homme, la vieille femme. Hein, y a plusieurs synonymes. C'est le premier agent de la tentation qui va favoriser le péché. Galates 5, 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, on l'a décrit ici, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, quand quelqu'un a un désir contraire, c'est que cette personne a une volonté propre. Vous êtes d'accord ? Un désir, quand tu as un désir, c'est que tu existes de façon autonome. Tu as une identité autonome. Donc, tu as des désirs, tu as des plans. Et bien, cette chair-là, ce qui est nous, on n'est pas schizophrène, hein, il n'y a pas de nous, mais il y a quand même de nous, excusez-moi, cette chair, cette chair, elle a des désirs. Et ils sont contraires. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. 1 Pierre 1,14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc on voit bien que il existe en l'homme des ressorts, un environnement psychologique qui le prédispose à avoir des désirs, des comportements contraires à ce que Dieu voudrait qu'on ait. Cette personne-là que nous sommes, ce que nous sommes quand nous venons sur Terre, et ce que nous sommes encore quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore, mais c'est-à-dire que, attention, nous sommes encore faits de chair, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes nés de nouveau, nous avons une nouvelle nature quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes convertis, nous avons reçu Jésus-Christ, mais nous sommes encore dans un corps charnel. Nous sommes encore dans une enveloppe charnelle. Et cette enveloppe charnelle, elle a encore une logique propre. C'est assez bizarre et c'est assez difficile à expliquer. C'est presque une maladie mentale, hein, presque, excusez-moi, mais c'est une maladie spirituelle. Il y a un conflit. La Bible nous dit qu'il y a un conflit. J'y peux rien, j'invente rien. C'est biblique. Il y a un conflit entre la chair et l'esprit. Et pourtant, nous sommes une personne, mais il y a un conflit en nous-mêmes. Le deuxième promoteur, le deuxième promoteur du péché, de la tentation, eh bien, c'est le monde avec un grand M. C'est pas moi, mais c'est l'autre, c'est autrui, c'est ceux qui m'entourent, celles et ceux qui m'entourent, c'est le monde. Alors que lisons-nous dans 1 Jean 5, 19, 20 ? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier est sous la puissance du mal. Ça veut dire que nous sommes, comme nous sommes en interaction avec ce monde. Forcément, quand il y a des interactions, on peut s'imaginer qu'on peut être influencé. On peut être influencé par le monde que l'on côtoie, le monde que l'on, avec lequel on a des, on fait commerce, on va dire. Donc, l'autre grand promoteur du péché, eh bien, c'est le prochain. C'est l'autre, c'est celui que l'on côtoie, qui peut être un agent, simplement, un agent, un émissaire, ben, désolé, du diable. Hein. Soyons clairs. Un agent, un émissaire du diable. Donc, voilà ce que dit Psaume 1.1. Heureux l'homme et la femme, bien sûr, qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc on voit bien qu'il y a des moqueurs, des pécheurs, des méchants. Et qu'on voit bien qu'il est sous-entendu là que fais attention à toi. Hein. Si tu vas tous les jours ripailler avec des gens de mauvaise vie, excusez-moi, Jésus l'a fait, mais c'était dans une autre optique, dans cet esprit d'amour, etc. Il n'y allait pas pour faire pareil. Jésus n'est pas allé pour faire pareil avec les gens de mauvaise vie. Il allait pour les aimer. Il allait pour les pardonner. Il allait pour les secourir. Il n'allait pas pour les imiter. Ce n'est pas pareil. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voyez que le monde peut être contagieux quand on parle du péché. Enfin, le troisième promoteur du péché, vous l'avez deviné, c'est Satan. Le troisième agent de la tentation et du péché. Apocalypse 12, 9. En parlant du diable, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, j'ai souligné. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Dans un autre verset, 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, ça veut dire qu'on a un adversaire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il semblerait qu'il y ait des menaces. Là, il y a des menaces. Alors il y a trois menaces. Ben, nous-mêmes, ennemi personnel numéro un, nous-mêmes, c'est celui qui est le plus proche de vous. Et c'est celui dont vous devrez vous méfier le plus, à mon avis. Ennemi numéro deux, ben, le monde. Et ennemi public cette fois-ci, numéro trois, ben, c'est Satan. C'est un ennemi public, hein, celui-là. Il est déclaré public. Parce qu'il séduit toute la terre. Il a une emprise qui est très large. La Bible affirme de plus que Satan est le père du mensonge. C'est fort quand même. Hein, c'est le père du mensonge. Et il s'est acquis depuis la chute de l'homme en Éden et de la femme de nombreux fils et filles sur terre. Il s'est acquis. Il a une descendance. Il a un héritage. Il a des héritiers. Il s'est acquis de nombreux fils, de nombreuses filles sur terre pour pouvoir le servir, pour pouvoir servir son plan, pour pouvoir corrompre bien comme il faut, être efficace. Il y a toutes sortes d'armées, vous voyez. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Jésus s'adresse aux religieux de son époque qui veulent le tuer. Vous avez pour père le diable. Donc vous voyez bien qu'il y a des fils et des filles du diable. Et là, il s'agit de religieux. Il s'agit de gens qui prient dans la synagogue tous les jours, qui enseignent comme je suis en train de vous enseigner. Je ne suis pas un fils du diable, je vous rassure. Attention. Et si ça l'était, il faudrait me démasquer et me faire dégager. C'est vrai. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Dis donc, le diable, c'est pas rien. Donc, vous voyez, il est le père du mensonge et il est le promoteur du mensonge. La tentation, c'est l'ennemi public numéro 1. L'ennemi personnel numéro 1, c'est nous. L'ennemi public numéro 1, c'est le diable. Ça fait beaucoup d'ennemis. Alors, ne soyons pas paranoïaques, ne rentrons pas dans la paranoïa, n'ayons pas peur. Moi, je vous dis, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Je vais vous rassurer. Je vais terminer cette prédication en vous rassurant. Est-ce que vous voulez que je poursuive tout cela ? Ça va être court maintenant, vous voyez ? J'en suis déjà à la troisième page, et il n'y a plus qu'une quatrième page. J'ai voulu découper cette petite étude en trois parties, parce que j'ai commencé par l'ensemble, puis je me suis dit jamais je n'y arriverai. Je vais découper, donc ça c'est partie 1, après partie 2 et partie 3, si jamais on veut encore bien m'inviter. Alors la conclusion de cette petite partie sur les différents ennemis qu'on vient de citer, c'est qu'il serait très hypocrite de notre part, et mensonger aussi, de se dédouaner, de se défausser de sa propre responsabilité en invoquant systématiquement l'intervention ou la responsabilité du diable dans nos échecs face à la tentation. Ça, c'est horrible, ça. Il faut arrêter avec ça. Beaucoup de chrétiens, là je parle aux chrétiens, beaucoup de chrétiens voient le diable partout. Il est partout, attention. Ils voient le diable partout. Il n'est pas partout parce qu'il n'est pas Dieu déjà. Il faut arrêter de lui donner une force et une puissance qu'il n'a pas. Vous savez, le diable, c'est un être corporel, matériel. Je veux dire. Il est circonscrit à son corps. Il a des démons, peut-être nombreux. Ils ont été précipités, la Bible nous le dit. Mais en attendant, il ne se multiplie pas, les démons. Mais Dieu, lui, est partout. Le démon n'est pas partout. Donc ne lui donnez pas plus de force qu'il n'a. Ça, c'est important d'avoir l'idée claire. Donc, certains chrétiens voient le diable partout et se préoccupent beaucoup plus de l'accuser, comme Adam accusa Ève. Rendez compte, vous voyez cette logique d'accusation de l'autre. Comme Adam accusa Ève de lui avoir proposé le fruit interdit, et comme Ève ensuite accusa le serpent de l'avoir séduite. Mais qui est responsable là-dedans ? Qu'on arrête quand même. Arrêtons d'accuser le diable quand nous échouons. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. La Bible est claire, Satan est le tentateur, il séduit toute la terre, c'est écrit. Mais ce n'est pas lui qui commet le péché à notre place. Est-ce que c'est lui qui a pris la pomme et qui l'a enfournée dans la bouche de Ève ? Arrêtons avec ça, ça c'est un... Ah oui. Ah oui. C'était pas de force. Il n'y a pas eu de violence physique. Je suis désolé. Donc... Il a juste séduit et il s'est arrêté. C'est son travail. Dieu ne lui a pas permis autre chose que ça. Il n'a pas la puissance de dépasser cette limite. Tenter, ok, mais aller violenter, non. Parce que si c'était le cas, si nous étions sous la violence physique du diable, cela nous exonérerait de notre responsabilité, de notre culpabilité. Parce que là, on serait torturé, finalement, vous voyez. Ce serait de la torture. On ne peut pas dire cela. Donc, le diable a une responsabilité, c'est l'ennemi public numéro 1, ok. Il séduit toute la terre, oui. Mais c'est nous qui décidons, ou pas, de l'écouter. Quand Ève, on lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit ? A-t-il vraiment réellement dit ? Elle aurait pu dire oui, il a réellement dit. Oui, oui. J'appelle Adam. Il a réellement dit oui. Ils auraient pu dire. Ils n'ont pas fait. Donc il faut rester honnête, sinon on pêche. Ceux qui accusent tout le temps le diable commettent un péché. Vous voyez, c'est quand même pas paradoxal de commettre un péché en accusant le diable. C'est bizarre, hein, il y a des péchés bizarres. Hein. Très très bizarres. D'ailleurs, on en viendra dans la deuxième partie, le péché n'est pas souvent ce qu'on croit. C'est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus fin que ce qu'on croit. Le péché en creux, pas toujours le péché, tu ne tueras pas. Combien de gens sont en prison aujourd'hui parmi nous? Pas beaucoup. Hein. Bon, les prisons sont remplies. Mais il y a bien des gens qui pourraient aller en prison s'il existait d'autres articles. Et si on prévoyait des sanctions pour d'autres types de crimes et de violences et de malhonnêteté qui ne sont pas répertoriés ou qu'on ne voit pas. Alors, donc, maintenant que nous avons vu qu'il fallait être honnête vis-à-vis de soi-même et reconnaître que nous sommes nos principaux ennemis, que le diable vient ajouter à cela avec sa tentation et que le prochain vient parfois ajouter à cela à la tentation, on doit être averti plutôt et se tenir en garde et savoir que le péché, c'est, ça nous engage, mais on vit dans un environnement qui nous prédispose. Alors on a un environnement comme dans une jungle, voyez, où il faut se méfier, où il faut se protéger, et il faut être aguerri. Mais rien ne nous empêche de marcher dans la jungle, bien armé, bien équipé, bien préparé. Il y en a qui vivent dans la jungle et qui survivent. Eh bien, je termine avec la parabole du semeur et je fais un lien avec le péché. Alors, nous avons vu que l'homme était l'ennemi personnel numéro un. Eh bien, nous allons nous appesantir à présent sur la parabole des terrains et du semeur. Je vais vous lire ce passage parce qu'il est intéressant, vraiment très intéressant. Et j'ai dit à mon épouse hier en travaillant ceci, que Jésus était un génie. Jésus était un génie. J'ai pris conscience. Vous savez, des fois, on dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oh, il est saint. Il est comme ci, il est comme ça. Mais franchement, c'était un génie, quoi. C'était un génie. Ce passage est génial. C'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Il y a tellement de c'est tellement juste. C'est génial. C'était un génie. Je lis. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Je lis vite parce que le temps passe. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, c'est-à-dire la semence leva, c'est-à-dire que ça germa, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, la semence fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces, la semence. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Je m'arrête là. Jésus leur dit, parce qu'après les disciples se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, blablabla. Et Jésus leur a expliqué. Donc, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Alors il explique. Le semeur sème la parole. La parole, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est mort pour toi, pour moi, à la croix, parce que j'étais perdu, tu étais perdu. Il donne sa vie à ta place. C'est une substitution pour que tu puisses avoir la vie, plutôt que la condamnation aille sur toi. Il meurt pour toi, pour que tu ne meures pas. Il te donne sa vie. Je donne ma vie pour un ami, je donne ma vie pour une amie. Je lui ai donné ma vie, il est sauvé, moi je suis mort, mais en attendant il est sauvé. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus donne notre vie, donne sa vie pour nous. Donc il sème la parole, le semeur sème la parole. Il dit les vérités de Dieu, il annonce la bonne nouvelle, une nouvelle d'espoir, d'espérance, de vie, de salut, de pardon, de réconciliation. Le semeur annonce la parole, il sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Alors, Satan vient et enlève la parole. Si la bonne semence déposée a pu être dans ce cas précis volée par Satan, enlevée, c'est certainement parce que les hommes qui l'ont reçue n'ont pas gardé avec sérieux, n'est-ce pas, ce qu'il leur avait donné. Un peu comme ce fut le cas avec Adam et Ève, j'y reviens tout le temps. Hein. On leur a dit, Dieu leur donna le jardin pour qu'ils le gardent, pour qu'ils le cultivent et qu'ils le gardent. On oublie toujours le garde. Vous savez, le garder, 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 garder. Mais pourquoi garder ? Donc, comme ce fut le cas avec Adam et Ève, qui n'avaient pas gardé et protégé le jardin de l'intrusion maléfique du serpent, et qui avaient accepté la mise en doute de la parole de Dieu. Donc là, c'est pareil. As-tu un copain qui t'a dit « Mais c'est quoi ces balivernes ?» As-tu une copine qui t'a dit « Toi là, toi qui es un grand scientifique, une grande scientifique, tu crois à ce genre de fable que Jésus est le Fils de Dieu ? Jette-moi cette Bible !» C'est ça que ça veut dire. Quand on dit que la parole, les grains, la semence a été ôtée, d'après vous, c'est quoi ? Ôtée par qui ? Mais Satan est venu, mais il a envoyé des émissaires. Il a bien fallu qu'on enlève cette semence. Donc il y a une action de, vous voyez, de sabotage, là. Mais la personne qui a reçu, elle a reçu au début. Parce qu'on dit qui a été semé en eux. Donc semé en eux, c'est que c'est... Ça a été semé en eux quand même. Mais quelqu'un est venu voler. Parce qu'on n'a pas été attentif. On n'a pas été diligent. On n'a pas été prudent. On n'a pas été prudent. Veillé. On n'a pas été prudent. On a été léger. Ce serait donc la négligence, l'irresponsabilité, la légèreté de la part de ces personnes qui seraient ici la cause du péché dans son sens étymologique, c'est-à-dire le fait que la cible soit manquée. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. La cible est manquée. Ils n'ont rien fait de mal, ces pauvres gens. Ils n'ont tué personne. Vous voyez, le péché, ce n'est pas ce qu'on croit. Là, en fait, ce que la Bible met en évidence, ce n'est pas le péché, c'est l'état de péché. C'est différent. C'est l'état de péché. Tu n'as rien fait de mal en tant que tel. Tu n'en as pas voulu à Dieu. Tu n'as pas insulté Dieu. Tu n'as rien fait. Mais ta négligence a occasionné ta chute. Le but est manqué, quand même. Et la personne à qui on a ôté la semence est perdue. Sauf si, amen, le semeur revient et revient et revient et resème à nouveau jusqu'à ce que la personne... Parce que le Seigneur nous donne plusieurs chances, rassurez-vous. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? C'est pas grave si tu as laissé l'oiseau manger la semence. Le Seigneur reviendra la saison prochaine pour semer à nouveau. Et là, peut-être que tu vas garder la semence. De même, d'autres sauvent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. C'est incroyable. C'est beau ça. Ils acceptent avec joie. Ça veut dire qu'ils ont compris. Il s'est passé quelque chose spirituellement dans leur cœur. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Oh, que c'est triste. Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes, les femmes, d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, alléluia. Oh, amen, ah, Seigneur. Ça ne sert à rien de faire ça, hein, honnêtement. Faites-le uniquement si vous avez des racines en vous-même. Si maintenant vous n'avez pas de racines en vous-même, arrêtez de sautiller, arrêtons de sautiller avec des amens, des alléluia, parce que tout ça, ça ne sert à rien. Moi, j'entends parfois des gens sautiller, etc., mais il vaut mieux pas sautiller et se dire, là, aujourd'hui, je ne suis pas très bien. Ou là, je me connais, connais-toi toi-même. Je sortirai plus tard. Mais il faut savoir que quand on n'a pas de racines en nous-mêmes, il faut se préparer à en avoir. Et j'aimerais vous dire une chose, les racines peuvent pousser. Les racines peuvent pousser, ce n'est pas une condamnation. Ce texte n'est pas une condamnation. Il n'y a pas de déterminisme. Vous n'êtes pas comme ci ou comme ça, ça sera ma conclusion. Non, il y a un message d'espoir derrière. Mais il y a un constat. Le constat, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de racines. Il y a des gens qui laissent le tout venant venir devant chez eux, n'est-ce pas ? Et ramasser, vous voyez, le tout venant. La maison est une auberge espagnole. On laisse tout rentrer, tout sortir, tout venir. Il n'y a pas de règles. Imaginez, il ne peut pas y avoir de semences qui restent. Donc ici, ce serait la superficialité, l'immaturité qui serait la cause du péché dans son sens étymologique. Je répète, C'est-à-dire que la cible a été manquée. T'as pas de racine, c'est pas ta faute après tout. Enfin, c'est pas ta faute, t'as pas de racine, t'as pas de racine. C'est ta vie, pour l'instant t'en es là. Mais en attendant, mais je suis désolé de le dire, la cible est manquée, tu mourras. Si tu ne reçois pas la parole, tu mourras. C'est triste à dire. Vous voyez, c'est ça, hein. Jésus nous enseigne quelque chose là. Et je termine, la conclusion c'est dans 5 minutes. Je sais que le rôti est en train de cuire. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces cette fois-ci. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. La parole est rentrée. Mais en fait, il y avait tellement d'autres choses sur le terrain que ça a été étouffé. C'est pas qu'elle n'a pas pris. Elle a pris. Elle a pris. Mais elle a été étouffée. Donc à chaque fois, vous voyez, le Seigneur nous montre qu'en fait, ça prend. Le cœur humain veut bien, a besoin de la parole. Ça prend quelque part, d'une façon ou d'une autre. On se pose des questions. On se tourne 2 secondes en disant, ah quand même. Et puis hop, il se passe des choses après, vous voyez, il y a une nature de péché, il y a un terrain qui fait que tout s'évanouit et la parole ne peut pas perdurer. Mais au début, il y a quelque chose qui se passe, la parole est bien semée, elle prend. Sauf pour les oiseaux ou le diable qui vient, qui la ramasse, qui l'ôte avant qu'elle ne prenne, mais elle a été semée quand même, elle a été semée. Enfin, donc ici, ce serait un engagement disproportionné dans les affaires du monde. Les préoccupations liées à la vie quotidienne, des fois c'est tout bête, sa vie de famille, c'est bête, les soucis, la tête qui explose. L'attachement au bien parfois, aux richesses, ça ne concerne pas la plupart des gens, ça. Qui est riche ici, vous voyez? Il y a les 1% les plus riches de la population, il y a 10% les plus riches. Je connais tout ça parce que j'enseigne en économie, mais... les Français ne sont pas si riches. Et puis quand on regarde bien, les 10% les plus riches possèdent 60% du patrimoine, ou 70%. Donc qu'est-ce qui reste aux autres? Ben, les 90% les plus pauvres, c'est-à-dire les autres, ils n'ont plus que 30% à se partager. Donc la plupart ne sont pas riches en France. Mais ça peut être cela. Ça peut être des distractions, ou la recherche de la gloire, du prestige, de vaines et éphémères, qui serait à l'origine, cette fois-ci, du manquement du but. Donc ici, je vais conclure maintenant. Par rapport à cette fameuse parabole des terrains et du semeur. Les terrains, c'est nous. Les terrains, c'est ce que nous sommes à l'instant T. Jésus décrit ce qu'il voit. Il a simplifié, parce qu'on pourrait... Il y a d'autres terrains, on aurait pu détailler. Mais schématiquement, c'est ça. Et ces terrains... Il n'a pas utilisé cette comparaison pour rien. Un terrain est source de vie. Si vous semez sur un terrain, ça fait croître les plantes, n'est-ce pas? Et ça donne du grain. Et donc, ça nourrit, ça fait vivre. Le terrain, c'est la promesse de la vie. La promesse de la vie qui dure. Donc, nous sommes les terrains. Et nous sommes appelés à vivre, à avoir de quoi manger, de quoi être nourri, avoir du pain, notre pain quotidien. Nous sommes appelés à ça. C'est ça le terrain. Mais vous avez vu qu'il y a des terrains qui sont en bien piteux état. Il y a des terrains parce que la vie vous a massacré. Votre terrain est aujourd'hui pierreux. Parce qu'on vous a volé votre terrain. On vous a dépossédé de votre terrain. Vous voyez ? Il n'y a pas qu'une accusation là-dedans. Jésus ne dit pas tout. Il n'y a pas que des accusations. Ah, tu as vu ce que tu as fait. Non, non. Comment est-ce que le terrain est pierreux, d'après vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce qu'on vous a violé un jour? Est-ce qu'on vous a maltraité, rejeté? Comment est-ce que c'est devenu comme ça? On n'explique pas ce qui s'est passé avant pour que le terrain en soit là. Donc il n'y a pas de jugement ici. C'est juste un constat. Et donc, pour certains, vous avez été volé de votre terrain. Il appartient à un autre ou à une autre. Peut-être c'est votre père qui vous a volé votre terrain. Peut-être c'est votre mère. Peut-être c'est votre frère. Peut-être c'est votre patron. Peut-être c'est votre famille. Peut-être c'est la guerre dans laquelle vous avez perdu beaucoup de choses. On ne sait pas. Qu'est-ce qui a fait que votre terrain a été abîmé? Donc, le terrain appartient peut-être à quelqu'un d'autre ou a appartenu à quelqu'un d'autre si aujourd'hui il est à Dieu. Mais il y a des séquelles. Il y a des sans dessus dessous, comme on dit. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on peut être responsable d'avoir vendu son terrain, d'avoir bradé son terrain. J'ai reçu un beau terrain, je veux de l'argent vite, comme le fils prodigue, pour aller faire la fête. Je vends le terrain que Dieu m'a donné. Et une fois que je l'ai vendu, les voleurs viennent s'y installer. Ça cache tout. Mais c'est moi qui ai vendu cette fois-ci. Ça peut arriver qu'on vende son terrain. Une fois qu'on l'a vendu, il faut le récupérer. Parce que c'est ton terrain. C'est ton terrain. Même si tu l'as vendu, c'est rétroactif. Tu peux le retrouver. Ce n'est pas d'ordre légal, n'est-ce pas, en France. Une fois que tu as vendu, de retrouver. Mais spirituellement, le terrain, il est associé, affecté à une seule personne. Si tu le vends, c'est retour à l'envoyeur, retour au propriétaire. Donc, ici, ce que j'aimerais dire, c'est que les terrains sont dans un état X, Y, Z. OK. J'aimerais vous dire, quel est l'agriculteur qui a peur de s'attaquer à un terrain pierreux? Aucun. L'agriculteur qui voit qu'il y a un terrain pierreux, il va faire venir une grue. Il va enlever les pierres. Autant que possible, il va amener de la terre. Il va ramener un peu de la terre, du fumier. Il va faire paître quelques vaches là-bas, quelques chèvres, pour, n'est-ce pas, enrichir le terrain. Et au bout de quelques années, croyez-moi, le terrain va commencer à être fertile. Et le terrain va commencer à donner du fruit et porter du fruit. Donc, il ne s'agit pas de se lamenter en disant « Ah ben moi, mon terrain, il est comme ça. » Que décides-tu? Mais maintenant, à qui confies-tu ce terrain? Puisque tu as été incapable de t'en occuper, ou tu l'as vendu, ou tu n'as pas la compétence totale, en tout cas à l'instant T, pour t'en occuper. Mais il y a un apprentissage. On doit être responsable. Est-ce que tu ne voudrais pas le confier à Jésus? Celui qui peut t'enseigner comment t'en occuper de ce terrain? Est-ce que tu ne voudrais pas le mettre à la lumière de Dieu? Est-ce que tu ne voudrais pas dire, bon, ok, maintenant je demande au grand architecte, au grand ingénieur, celui qui a fait les plans de l'univers, pour mon terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il est particulier, mon terrain, il a une histoire. Qu'est-ce que tu préconises, mon Dieu? Toi, qu'est-ce que tu verrais? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Par quoi est-ce qu'on commence? Le terrain est pierreux, le terrain a des racines, le terrain est rempli de mauvaises herbes. Ok, il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut remplacer par autre chose. Mais il y a un travail. Alors là, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est simple. À un moment donné, il y a une prise de conscience. Le terrain, c'est la prise de conscience. Jésus est en train de vous dire, prenez conscience que votre terrain est rempli de racines, rempli d'épines, de ronces, etc. Prenez conscience et faites quelque chose. Pour celui qui a un terrain pierreux, Jésus vous dit, mais prenez conscience que c'est du roc. Il n'y a rien qui peut pousser là. Que fais-tu? Est-ce que tu me confies l'affaire? Tu veux bosser avec moi? Ou est-ce que tu veux continuer comme ça? Il faut bien une prise de conscience. Et qui dit prise de conscience dit qu'on est devant un miroir et on ne fait pas comme celui qui se regarde, qui tourne la tête aussitôt, en ayant oublié ce qu'il a vu. On se regarde et on dit, ah oui, effectivement, il y a des problèmes. On fait un bilan et on dit, maintenant, je fais ça. Et on confie notre terrain, c'est-à-dire notre vie, à Dieu, pour qu'il s'en occupe. Et maintenant, je parle aux chrétiens. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez un terrain ou une propriété qu'elle est toute travaillée. Non, c'est des gens qui ont 2000 mètres carrés, 4000 mètres carrés, 10 mètres carrés. Allez voir chez eux. Vous allez voir que souvent, devant la maison, il y a du gazon. Autour, il y a des fleurs. Mais quand vous vous éloignez un peu, bizarrement, il y a des ronces, il y a des pierres. Le travail n'a pas été terminé. La maison a été construite il y a 20 ans. La conversion a eu lieu il y a 20 ans. Mais la maison est restée dans l'état de l'achat il y a 20 ans, au fond du jardin. Allez voir ce qui se passe. Des fois même, il y a des débris, on cache des choses, C'est caché, mais on dit on verra plus tard. Ah oui, mais ça on verra plus tard, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que quand la parole, la semence tombe là-bas, parce que la semence, il faut qu'elle aille un peu partout. Quand elle va sur cette partie un peu négligée, mise de côté, oubliée ou cachée, eh bien, ça ne pousse pas. Et il y a des problèmes. Donc en fait, le flambeau de l'évangile, la lumière de Dieu, il faut qu'elle passe partout. Hein. Il faut qu'elle passe partout, sur toutes les parties du terrain, pour qu'on puisse semer. Mais si c'est dans l'obscurité, on ne peut pas, on ne peut rien faire. On ne peut pas voir qu'il y a des pierres, on ne peut pas voir qu'il y a des ronces, parce qu'il faut de la lumière pour éclairer. Et la lumière pour éclairer, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est le fait de dire « je reconnais qu'il y a des problèmes ». Et donc je reconnais que je n'ai pas soumis toute ma vie à l'évangile dans tel et tel domaine, et la flèche a manqué sa cible. Dans ce domaine, elle a manqué sa cible. Et si ça continue, peut-être que ça pourrait dégrader le reste. Donc voilà, il y a un message d'espoir. Jésus n'est pas là pour dire qu'il y a ce qu'on appelle une donne, et qu'après cette donne, tout est fait. Au contraire, il nous invite à réfléchir à qui nous sommes. Connais-toi toi-même, disait Socrate, hein, n'est-ce pas ? Qui nous sommes, nous mettre devant la lumière de son évangile et prendre des décisions et l'associer à nos décisions pour que le travail soit fait, pour que la semence porte. C'est cela qui nous invite à faire. Et pour certains, le terrain pierreux se transformera en terrain prospère. Pour certains, le terrain rempli de ronces se transformera en oasis, n'est-ce pas, etc. Donc il y a un message d'espoir. Et moi, ça m'a réjoui de pouvoir lire ça, de pouvoir vous apporter cela, parce que je me dis, ben, il faut commencer. Il faut commencer par un travail. Il faut se mettre au travail. Rentrer dans la maison de Dieu, ce n'est pas une fin, hop, un aboutissement. Il y a un travail à faire. D'accord ? Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, la nouvelle naissance ne suffit pas. Il faut ensuite faire passer l'évangile, la parole de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu, dans toutes les sphères, dans tous les recoins de nos vies, pour que ce soit nettoyé, lavé, mis en ordre. C'est tout, hein, sinon le terrain. Et donc je conclue pour dire, c'est une dernière phrase, que vous voyez que le péché n'est pas forcément quelque chose de volontaire. C'est pas forcément j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Le péché, c'est surtout, c'est aussi avant tout un état de nature. C'est un état de nature. Et on subit l'état de nature tant qu'on n'a pas pris conscience. On n'a pas forcément fait quelque chose de volontaire, mais on subit un état de nature qui a des conséquences graves. Et donc c'est par rapport à cet état de nature que Jésus a voulu nous enseigner. Alors voilà, ben je vais prier pour vous et puis la prédication est terminée.